Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Après 3 jours de dépouillement, Joe Biden est confiant mais n'annonce pas encore officiellement sa victoire. Le candidat démocrate à la présidentielle américaine s'est exprimé cette nuit, vous l'entendrez. Les résultats qui ne sont pas définitifs semblent favorables à Joe Biden.
À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve de fraude électorale, contrairement aux accusations de Donald Trump. Mais les partisans du président sortant s'interrogent. Reportage de notre envoyé spécial en Géorgie, un état clé.
Au moins 60 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés depuis hier. En France, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, s'inquiète du décrochage scolaire, alors que le protocole sanitaire est renforcé dans les lycées avec plus de cours à distance. Nous reviendrons aussi sur les conséquences du télétravail sur la santé.
Il faut respecter plus que jamais le confinement, martèle Jean Castex, le chef du gouvernement ira à Nice ce matin. Pour rendre un hommage national aux victimes de l'attentat dans la basilique de Nice la semaine dernière.
En Autriche, après l'attentat perpétré à Vienne, le gouvernement a ordonné la fermeture de mosquées jugées radicales. Explication de notre correspondante.
Enfin, nous irons en Suède où Ikea se met à vendre des meubles d'occasion.
Et dans la deuxième partie des matins du samedi, Chloé Cambrelin, vous recevrez...
l'avocat Jean-Marie Burguburu, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, pour parler de nos libertés en ces temps de menaces cumulées. Que peut le droit face aux émotions ?
L'attente devient longue, très longue aux États-Unis où aucun vainqueur n'a encore été déclaré, même si les premiers résultats de l'élection présidentielle donnent pour l'instant Joe Biden en avance devant le président sortant Donald Trump. Joe Biden qui s'est exprimé vers 5h du matin, heure française, se gardant bien de proclamer sa victoire. C'était au QG du camp démocrate à Wilmington dans le Delaware.
Nous n'allons pas encore déclarer notre victoire, mais les chiffres sont très clairs. Nous allons gagner cette élection. Nous sommes sur le point de décrocher 300 grands électeurs. Et regardez les chiffres du vote populaire. Nous allons gagner ce scrutin avec clairement la majorité du pays derrière nous. Nous avons récolté 74 millions de voix. Jamais dans l'histoire des États-Unis, un ticket présidentiel n'avait remporté autant de suffrages. Écoutez, nous savons bien que les tensions sont grandes après une élection aussi dure que celle que nous venons de vivre. Mais souvenez-vous, nous devons rester calmes, patients. Laissons le processus se dérouler normalement en comptant tous les bulletins.
Les résultats sont par endroits très serrés et de nombreux bulletins sont arrivés après le 3 novembre. Alors le dépouillement continue, comme dans ces 4 états clés, la Pennsylvanie, le Nevada, l'Arizona et la Géorgie. En Géorgie, le candidat démocrate devance son adversaire Donald Trump d'environ 4000 voix seulement. Un écart si faible que le gouvernement local a demandé à recompter les bulletins. Mais les partisans trumpistes ont l'impression de se faire voler la victoire devant le centre de décompte d'Atlanta. Ils affichent leur colère face aux partisans démocrates. Le reportage de Gaël Joly.
We're red all the way.
Rouge, on est des plus rouges, revendique Jason sur son morceau de trottoir. En face de la rue, les démocrates sourient, narguent presque les manifestants avec leurs espoirs de victoire. De quoi mettre hors de lui ce fervent trumpiste.
Hors de question que Biden l'emporte. C'est une élection truquée. Il y a des bulletins de vote tombés dans des poubelles. Je crois qu'il va falloir attendre longtemps avant de connaître le nom du nouveau président. Quand notre président reconnaîtra sa défaite, on acceptera, mais pas avant.
Aidés par leur chef de file, les partisans du président dénoncent des irrégularités. Pourtant, ici en Géorgie, même le shérif a démenti ces allégations dans une prise de parole publique hier. Mais John continue d'y croire.
Vous savez, pour moi, la définition de républicain, c'est la tolérance. Et je suis un fervent partisan de la tolérance, mais là, je vous mentirais si je vous disais que je ne suis pas fâché. Je suis très irrité, très frustré. Déçu de mon pays, l'Amérique. Il y a des milliers de bulletins de vote truqués. Il y a des centaines de milliers de vidéos de votes qui ne valent rien. Et là, les démocrates, au lieu de s'excuser, ils disent « chaque vote compte ». C'est incroyable.
Count every vote. Count every vote.
I'm proud for Georgia coming blue today. Yes, I'm very proud.
Justement, en face, Anton ne cesse de sourire. Il est très fier de voir la Géorgie se teinter de bleu.
I feel like love wins.
L'amour a gagné, dit-il.
What do I expect from him?
Et ce qu'il attend maintenant, c'est que l'on rende non pas la grandeur, mais l'unité à l'Amérique. Pour lui, la victoire des démocrates est imminente. C'est une attente interminable.
Yes, we need a new president.
France Culture 8h05, Margot Delpierre. Aux États-Unis comme en France, l'épidémie de Covid-19 progresse.
127 000 cas de coronavirus ont été enregistrés hier outre-Atlantique. C'est un nouveau record de contamination. Et selon CNN, le chef de cabinet de Donald Trump est aussi positif. Tandis qu'en France, nous venons de franchir ces dernières 24 heures la barre des 60 000 nouveaux cas. Au total, le nombre de morts approche les 40 000 selon Santé publique France. Hier, l'épidémie a fait 405 morts dans les hôpitaux. Les chiffres pourraient être sous-estimés. Depuis plusieurs jours, les données sont incomplètes à cause d'un incident informatique provoqué par l'énorme volume de tests réalisés en ce moment, a expliqué l'agence sanitaire. Le Covid-19 circule donc beaucoup et face à la colère des enseignants, des parents, des élèves, le gouvernement a revu son protocole sanitaire. Il sera renforcé dans les lycées. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé avant-hier un minimum de 50% d'enseignement en présentiel. Il y aura donc plus de cours à distance. Rappelons aussi que les épreuves d'évaluation commune du bac seront annulées au profit du contrôle continu. Les lycées dépendent des régions et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'inquiète des difficultés qu'auront certains à suivre ce nouveau protocole.
Tous les élèves qui n'ont pas un bon réseau Internet chez eux ne peuvent pas suivre des cours en distanciel. Ces élèves-là, ils doivent continuer d'être accueillis dans les classes. C'est la demande que fait la région à l'éducation nationale. De la même façon, nous avons une deuxième demande pour éviter le décrochage, c'est que les profs soient remplacés. Nous souhaitons que tous les professeurs absents puissent être remplacés de la même façon que la région remplace les agents absents. Il faut que l'éducation nationale se mette en situation de remplacer sans délai les professeurs absents. Parce que ce qui provoque le décrochage scolaire, c'est aussi pour certains élèves de ne pas avoir eu cours dans des matières importantes pour eux, notamment je pense aux matières de spécialité, aux matières, aux matières du baccalauréat, qui sont des matières dans lesquelles on ne peut pas se passer de l'enseignement d'un professeur pendant un mois.
Valérie Pécresse, hier en conférence de presse, elle promet par ailleurs des moyens supplémentaires pour les établissements scolaires et affirme que 100 000 tests antigéniques proposant un résultat en 15 minutes viennent d'arriver dans les lycées d'Île-de-France. Les actifs sont eux en télétravail quand cela est possible, comme lors du premier confinement au printemps dernier. Télétravail égale bien souvent sédentarité, mais rester longtemps assis est mauvais pour la santé. Un problème qui n'est pas nouveau pour celles et ceux qui, confinement ou pas, passent du temps assis derrière leur bureau. Ce qui est certain, c'est que le télétravail ne va rien arranger, Arnaud Rozac.
Marcher pour aller au travail, se lever de sa chaise pour faire des photocopies ou bien transmettre un document à ses collègues, toutes ces petites activités disparaissent avec le télétravail. Rester chez soi, c'est rester assis encore plus longtemps que d'habitude, devant l'écran de son PC par exemple, et les effets sur notre organisme peuvent être terribles. Martine Duclos préside le conseil scientifique de l'ONAPS, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité.
C'est développer une obésité, des maladies cardiovasculaires, donc c'est l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, et puis c'est le diabète de type 2 et aussi certains cancers. Ces maladies, elles surviennent indépendamment de votre niveau d'activité physique. Si vous passez au moins 7 heures assis par jour, vous êtes à risque.
Et tout ça, sans compter une mauvaise alimentation. Grignoter pendant le télétravail, c'est tentant, mais en restant assis, vous allez accumuler de la graisse viscérale. Pour Martine Duclos, il existe quelques réflexes tout simples pour lutter contre la sédentarité.
Pensez simplement à vous lever toutes les heures une minute, et puis bouger, être actif pendant cette minute. Pensez à vous garder 30 minutes d'activité physique. Et l'activité physique, c'est ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire. Ça peut être de la marche, promener son chien, profiter de l'automne, voilà. L'important, c'est d'avoir quelque chose que l'on aime et pour lesquels ce ne sera pas difficile de le faire.
Ces tout petits efforts sont très bénéfiques. Ils peuvent diminuer les risques de maladies cardiovasculaires de 50%.
Arnaud Rozac. 10 personnes sont désormais mises en cause dans l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. 3 jeunes de 17 et 18 ans ont été mis en examen hier pour association de malfaiteurs terroristes criminels. 2 d'entre eux sont soupçonnés d'avoir échangé des messages avec l'assaillant. L'autre attaque qui a ému la France, c'est l'attentat dans la basilique Notre-Dame de Nice la semaine dernière. 9 jours après, un hommage national sera présidé ce matin par le Premier ministre Jean Castex en présence des proches des 3 personnes tuées au couteau l'aura du lieu.
L'hommage aux 3 victimes commencera à 10h et sera présidé par Jean Castex. Le Premier ministre prendra la parole à 10h40. Un temps d'échange avec les familles des victimes est prévu. La cérémonie se tiendra au sommet de la colline du château de Nice qui surplombe la baie. Plusieurs membres du gouvernement seront aussi présents. Il y aura le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, et Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté. On a appris également que Nicolas Sarkozy sera présent à l'hommage. Précision de Matignon, tous les anciens présidents de la République ont été invités comme c'est l'usage pour ce type de cérémonie. C'est le maire de Nice, Christian Estrosi, qui avait sollicité Emmanuel Macron pour un hommage national avec l'accord des familles des victimes. Et enfin, lors de cette cérémonie, Jean Castex va aussi remettre des décorations aux policiers municipaux niçois. Arrivés en premier sur les lieux, ce sont eux qui avaient neutralisé l'assaillant.
Et l'auteur présumé de l'attentat de Nice est arrivé hier soir à Paris pour y être soigné. Peu après l'attaque, il avait été neutralisé par la police et donc gravement blessé par balle. Il a aussi été testé positif au Covid-19. En Autriche, le gouvernement a annoncé hier des mesures après l'attentat perpétré à Vienne lundi soir par un sympathisant du groupe État islamique. D'abord, des mosquées radicales seront fermées et le chef de la lutte antiterroriste de Vienne est suspendu après plusieurs ratés. Dans la capitale, les précisions d'Isorias.
Le gouvernement a ordonné la fermeture de 2 mosquées situées dans la capitale autrichienne et identifiées comme radicales. L'une dépendait de l'IGGE, principale instance représentative des musulmans d'Autriche qui gère 360 mosquées dans le pays. L'autre non. La ministre des Cultes et de l'Intégration, Suzanne Raab, a donné quelques précisions hier.
L'assaillant a régulièrement fréquenté ces 2 mosquées depuis sa sortie de prison. La visite de ces mosquées a favorisé sa radicalisation. Mais il est important pour moi de souligner que cela n'est pas une attaque contre la religion, mais une lutte contre l'extrémisme.
On a également appris que l'assaillant avait rencontré cet été plusieurs personnes qui étaient surveillées par les services de lutte antiterroriste de Vienne, mais aucune conséquence n'a été tirée de ces contacts. Un raté qui s'ajoute à d'autres, a reconnu le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, qui a annoncé le départ du chef de cette entité.
Nous avons de nouvelles connaissances qui montrent qu'il y a eu dans l'enquête des erreurs manifestes et de notre point de vue intolérables. Il y a donc sans délai et dans un premier temps des conséquences sur le personnel. En outre, il y a une commission d'enquête indépendante qui évaluera tout ce qui a été fait et indiquera où nous pourrions être plus efficaces.
Le ministre de l'Intérieur, sous le feu des critiques de l'opposition ces derniers jours, a en revanche exclu de démissionner.
Le groupe a plutôt l'habitude de faire du neuf. IKEA propose désormais des produits d'occasion. Le géant mondial de l'ameublement a ouvert cette semaine près de Stockholm son premier magasin consacré exclusivement aux produits de seconde main qui seront d'abord remis en état avant d'être vendus. Une innovation du groupe suédois, elle n'est pas directement liée à l'épidémie de coronavirus, mais elle tombe plutôt bien en ces temps de crise économique, Frédéric Faux.
C'est le premier magasin d'occasion IKEA au monde, ça fait 72 mètres carrés. C'est notre plus petit magasin IKEA, mais probablement le plus important pour l'impact positif que nous pouvons avoir. Un magasin plein d'occasion IKEA, comme des chaises, des tables ou des armoires de rangement.
Nous sommes à Eskilstuna, à une heure de Stockholm, dans un centre commercial uniquement dédié à l'occasion. C'est ici qu'IKEA a décidé de tenter l'expérience de la seconde main. Les produits de la marque sont rapportés et donnés par les clients, remis à neuf par des personnes handicapées, puis revendus avec des tarifs qui peuvent être inférieurs de moitié à ceux du neuf. L'opération doit être rentable, mais elle doit aussi aider le groupe à atteindre son objectif, qui est de vendre 100% de produits durables d'ici 2030. Pour IKEA et ses 40 milliards de chiffres d'affaires, la tentative reste modeste, mais elle est saluée par les militants de l'économie circulaire en Suède. Enik Gilberg est une des voix derrière le Shopscam, la honte d'acheter, un mouvement visant à décourager la consommation d'objets neufs.
Le fait que ce soit une entreprise si importante a un impact. Ça aide le consommateur lambda à faire le premier pas et à acheter de l'occasion plutôt que du neuf.
Si l'expérience est concluante, IKEA pourrait ouvrir d'autres magasins d'occasion à travers le monde.
Frédéric Faux, le temps sera ensoleillé aujourd'hui dans le nord et l'est de la France, nuageux et pluvieux cet après-midi du nord-ouest au sud-est. Météo France place le Gard et l'Hérault en vigilance orange. De fortes pluies et des orages sont attendus ce soir. Vous n'aurez pas plus de 15 degrés à Brest, 16 à Paris et Bordeaux, 17 à Lyon et 20 degrés à Ajaccio.